Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette soirée. Nous te prions d'éclairer notre pensée afin que nous comprenions bien tout ce que tu veux que nous comprenions et que nous puissions être sensibles à ton esprit afin de nous sentir réconfortés, fortifiés, bénis. Merci Jésus. Amen. Excusez-moi, j'étais un petit peu... Là, je l'ai vu, hein. Là, je l'ai vu, je suis désolé. Je voulais vous dire, ce soir, c'est un peu spécial ce que je voulais vous dire, et je voudrais, avant de commencer cette étude, vous dire que je tiens absolument pas à ajouter à la détresse des gens qui souffrent à cause d'un mariage difficile ou qui ont souffert à cause d'un mariage difficile. Mais comme nous sommes en train d'étudier le sermon sur la montagne, eh bien, je vais vous enseigner ce que Jésus dit, parce que je crois que le projet de Dieu, c'est le mariage, et que le mariage est une bonne chose. Et voilà pourquoi je vais vous enseigner ce passage. Et on ne va pas éviter les passages bibliques, parce qu'ils nous semblent un petit peu compliqués ou chiffonnants. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce soir, on va lire Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Amen. Alors, quand on sait que de nos jours, il y a un mariage sur deux qui finit par un divorce, évidemment, je pense que je vais toucher beaucoup de monde sur Internet, parmi tous ceux qui viennent nous écouter régulièrement. Sinon, des gens qui ont divorcé ou des gens qui connaissent des gens qui ont divorcé. Enfin voilà. Donc, je vous répète bien, je ne suis pas là pour juger, mais pour enseigner ce que Jésus dit. Alors, premièrement, il faut voir que les versions divergent, surtout au sujet de la précision que Jésus donne. On trouve, sauf en cas d'inconduite sexuelle, ou dans l'autre version, sauf en cas d'union illégale, ou sauf en cas d'infidélité. Il y a encore d'autres petits détails, mais enfin, là, voilà, c'est ça qu'on trouve. Et je vais vous dire quelque chose, je ne crois pas que Jésus a dit tout ce qui concerne le divorce dans ces deux versets. D'abord, premièrement, il en parle beaucoup plus au chapitre 19 de ce même évangile, mais aussi, Luc nous dit que Jésus n'a pas fini d'enseigner quand il était dans son ministère avec les apôtres. On trouve ça dans Actes 1:1, et que Jean nous dit aussi que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, évidemment aussi tout ce qu'il a dit, eh bien, il dit les livres du monde entier ne suffiraient pas à contenir tout cela. Alors évidemment, c'est une image pour nous faire comprendre qu'il a dit et fait beaucoup de choses, hein, beaucoup, beaucoup de choses, qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais par son esprit, il parle encore, il enseigne encore de nos jours. Et donc nous pouvons, avec le secours de son esprit, comprendre ce que Dieu veut nous dire au sujet de ce sujet délicat, donc le divorce. Jean a donc écrit que Jésus a commencé, Luc a dit que Jésus a commencé d'enseigner. Donc voilà, ce soir je pense que vous allez pouvoir être enseigné par le Saint-Esprit encore au sujet de cela. Et on va essayer de voir cela en étudiant les versets 30 et 31 de Matthieu 5, mais à la lumière du chapitre 19. Alors, je vous invite à lire le chapitre 19. Au sujet, il parle à peu près des mêmes choses. C'est verset 3. Les pharisiens, ça n'a rien à voir avec les parisiens, hein, c'est des pharisiens. Les pharisiens, c'est des religieux. Ils vinrent le mettre Jésus à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ils lui dirent, mais alors pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet l'adultère. Alors, comment est-ce que les pharisiens enseignaient à cette époque-là, à l'époque de Jésus? Alors, on le sait parce qu'il y a un historien, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Joseph, c'est un juif, et donc on a beaucoup de ses écrits, et il parle au sujet de ces choses. Il dit par exemple qu'à l'époque de Jésus, il y avait deux écoles principales. Il y avait l'école de Hillel, c'était un pharisien, puis un autre s'appelait Shammai, qui était aussi un pharisien, un rabbin. Et ces deux-là, ils enseignaient au sujet de beaucoup de choses. Quand il s'agissait d'enseigner au sujet du divorce, ils prenaient Deutéronome 24, 1 à 4, on va le lire. Encore une lecture, vous voyez, qu'on en fait pas mal ce soir. Deutéronome 24. Alors là, il est écrit, c'est donc dans Moïse. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme et que celle-ci n'a pas trouvé grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une attestation de rupture et après la lui avoir remise, il la renverra dans sa maison. Elle sortira de chez lui et s'en ira, elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme ne l'aime pas, qu'il écrit pour elle une attestation de rupture et après lui avoir remise, la renvoie de sa maison. Ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Ce serait une abomination devant le Seigneur. Tu ne chargeras pas d'un péché le pays que le Seigneur ton Dieu t'a donné et te donne comme patrimoine. Alors, Shammai avait un enseignement très carré là-dessus. Il enseignait que la seule raison de divorcer, c'était une infraction grave, c'est-à-dire un acte inconvenant, indécent, voilà, il était clair. Par contre, le rabbin Hillel, lui, était plus indulgent, et on sait donc tout cela à cause de Joseph, hein, c'est pas le Saint-Esprit qui nous l'a révélé, on est dans ma bibliothèque, puis vous lisez avec moi si vous voulez chercher. L'école de Hillel, c'était celle qui avait le plus de succès, ça va sans dire, puisque c'était le plus conciliant, hein. Donc, voilà. Selon Hillel, la loi de Moïse, elle pouvait s'appliquer à tout homme. Voilà, c'était toujours des histoires d'hommes. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit de répudier leur mari pour infidélité. Vous avez remarqué la chose. Hein. Mais si un homme, voilà, veut se séparer de sa femme qui habite avec lui pour un motif quelconque, eh ben, ça allait de l'acte le plus grave. Hein, si sa femme le trompait avec un autre bonhomme. Ou alors, même le plus insignifiant, si elle ne savait pas bien faire la cuisine. Pas faire la vaisselle, voilà, donc il avait le droit de la renvoyer. Alors ça les arrangeait les pharisiens, c'était sympa comme loi. C'était toujours une loi d'homme, hein, c'était pour les hommes, donc entre hommes ils s'arrangeaient bien, puis les femmes, voilà, ben, c'était sois belle et tais-toi, et puis voilà. Donc les pharisiens étaient plus attirés par l'enseignement de Hillel. Et c'est pourquoi ils posent la question à Jésus, mais est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Vous comprenez maintenant pourquoi il pose cette question? Parce que, voilà, ça paraît bizarre. En fait, ces pharisiens, ils se moquaient pas mal de ce que Jésus pensait et de ce qu'il allait dire. Il n'allait pas dire, ah ben si Jésus dit ça, on va revoir notre façon de penser. Je ne pense pas du tout. Mais simplement, ce qu'ils voulaient savoir, c'était dans quel camp Jésus se plaçait, lui. Afin de pouvoir le chipoter, afin de pouvoir l'embêter et le critiquer. Alors, comme Jésus connaissait bien leur cœur, il leur fait une réponse qui les remet à leur place, c'est-à-dire à la place, la place du serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, il ne parle pas du divorce, il parle du mariage. Voilà, premièrement. Et les pharisiens, ils s'occupent du divorce. Jésus, lui, leur parle du mariage. Jésus, il ne va pas leur donner la joie de légitimer le divorce. Il leur répond, mais sa réponse, ce n'est pas vraiment une réponse. C'est une réponse à la juive, hein, c'est-à-dire il pose une autre question. Vous savez, les juifs font toujours ça encore, hein. J'ai appris à le faire, c'est pas mal aussi. On vous pose une question, elle peut se répondre, vous en posez une autre, hein. Ça remet les choses, c'est bizarre comme situation après. Donc il les interroge sur leur interprétation de l'écriture en fait. Il les renvoie aux origines, à la Genèse. Il approfondit la chose. Premièrement, au chapitre 1, c'est le mariage pour les hommes et les femmes. Vous avez vu, les choses ont bien changé maintenant. Les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes aussi. Alors on n'appelle pas ça le mariage, mais le pax. Mais bon, il n'y a pas tellement de différences, sauf des questions d'argent, d'héritage, des trucs comme ça. Mais c'est en train de glisser, ça devient exactement comme le mariage. Bientôt aussi, maintenant on a vu, je crois que c'est Anne ou Esther, je ne sais plus, qui m'a envoyé un panneau là, d'une église où ils font des baptêmes pour les animaux. Pourquoi pas bientôt aussi, un homme pourra se marier avec son chat, sa vache, ou tout ce que vous voulez, pourquoi pas. Tout devient maintenant possible, c'est curieux, on vit une époque vraiment bizarre. Donc voilà, Jésus met les choses, au début c'était un homme, une femme, shabbalabada, hein, un homme, une femme. L'homme quittera son papa, sa maman, il dit même pas ce que la femme doit faire, mais c'est clair que aussi elle quitte son papa, sa maman, et puis ils s'attachent l'un à l'autre, ils ne font plus qu'un. Le mariage, il est permanent. Il est permanent, ils sont attachés, ils sont unis. Et ils sont plus deux, ils sont une seule chair. Et puis ensuite, Jésus enfonce le clou et dit, c'est pourquoi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà. Alors si je comprends bien, et je crois quand même bien comprendre, le Seigneur, Dieu unit pour toujours deux personnes. Deux personnes qui ont résolument quitté leurs parents, pour vivre ensemble, pour former une nouvelle entité sociale, pour former une seule chair. Et ça, c'est pour toujours. Ce que Dieu a uni, l'homme n'a pas le droit de les désunir. Les Mormons, ils disent qu'il faut faire un deuxième mariage, un mariage pour l'éternité. Non, moi, je pense pas. Hein. Ce qui est uni par Dieu, il va pas... S'il nous interdit à nous de le désunir, c'est pas lui qui va s'amuser à le désunir. Si le mariage est fait correctement, avec un serviteur de Dieu qui a l'autorité pour le faire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première facette de la non-réponse de Jésus aux pharisiens. Ensuite, Jésus leur montre que eux, les religieux, ils considèrent la clause mosaïque comme un commandement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clause ? Ben, j'étais regardé dans le dictionnaire parce que j'ai vu que bon, c'est pas, ça fait pas partie des commandements là, de Deutéronome 24, puisque celui qui commet l'adultère, c'est normalement c'est la mort, homme ou femme là, hein. Et puis ensuite, bon voilà, on adoucit un petit peu les choses. Donc c'est plus dans les commandements, c'est une clause. Qu'est-ce que c'est qu'une clause ? Une clause, c'est une disposition particulière d'un acte juridique, c'est quelque chose de particulier, c'est pour un cas particulier. Donc Deutéronome 24, on peut appeler ça en termes juridiques une clause compromissive. C'est ça, Catherine ? On appelle ça ici en France une clause compromissive en droit, c'est-à-dire en termes juridiques. C'est-à-dire, c'est une clause qui prévoit un arbitrage dans certaines situations, en cas de litige, quand il y a vraiment un problème. Alors les pharisiens, ils prenaient cette clause pour une loi. Jésus, lui, considère comme une concession, cette clause, il la considère comme une concession à cause de la dureté du cœur. Vous êtes dur, alors maintenant, Dieu tolère maintenant certaines choses. C'est pas une loi. Et comme Jésus leur fait bien comprendre que le mariage est permanent, alors les pharisiens disent, mais alors pourquoi Moïse, vous comprenez hein, les pharisiens ce que Jésus est en train de dire. Et il a dit, mais alors pourquoi est-ce que Moïse permet donc une répudiation? Comment ça se fait? Et c'est exactement ce dont Jésus parle dans son sermon sur la montagne au verset 31. À part pour l'adultère, à part pour une cause comme ça, non. Là, on se trouve devant un cas frappant de comment les pharisiens forcent le sens des enseignements des Écritures. Ils le tordent pour arriver à créer leur truc à eux. Et ils insistent sur le certificat, l'Écriture, un certificat de répudiation, comme s'il s'agissait d'un commandement, comme si la loi de Moïse, elle mettait l'accent là-dessus. Mais la loi de Moïse ne met pas du tout l'accent là-dessus. Bon. Qu'est-ce que nous dit Deutéronome 24? On l'a lu, vous êtes d'accord? Est-ce que vous permettez que je vous le paraphrase? Je vais vous le paraphraser, puis vous allez me dire après si vous l'aviez compris comme ça. Ça veut dire, ce Deutéronome 24, si un homme, après avoir épousé une femme, découvre en elle quelque indécence et lui enverrait une lettre de divorce, la répudie et s'en sépare, et si elle se remarie, et si son deuxième époux trouve aussi une inconvenance, etc., elle lui donne une lettre de divorce et la répudie, ou s'il meurt, son premier mari n'a pas le droit de la reprendre. C'est ça que dit Deutéronome 24. C'est vraiment, il faut le lire bien pour comprendre qu'est-ce qui est écrit là. En gros, ce passage de Deutéronome 24 cherche donc à interdire le remariage avec un ou avec une personne, avec un ou une partenaire qu'on aurait répudié. C'est bizarre comme réglementation, mais enfin, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous paraître bizarres, mais maintenant, de nos jours, il y aura encore, si la Bible devait être écrite aujourd'hui, il y aura encore beaucoup d'autres choses bizarres, parce que le cœur de l'homme est bizarre. Donc, à mon avis, ça signifie surtout que l'indécence de la femme ou la chose qui n'est pas correcte dans la femme suffisait à justifier un divorce. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que cette réglementation, elle avait aussi pour but d'éviter de rendre le mariage sérieux et que l'homme ne soit pas tenté de, à la légère, renvoyer sa bonne femme, parce qu'une fois que la décision était prise, c'était irrévocable. S'il l'avait répudiée, il ne peut plus la reprendre. Donc il fallait bien qu'il réfléchisse, est-ce qu'on ne faisait pas ça sur un coup de tête. Peut-être aussi, je crois que je vais un petit peu loin, parce que connaissant les machos comme ils étaient déjà à l'époque, et puis maintenant encore, mais enfin, à l'époque c'était très fort, mais enfin quand même on peut leur prêter ce crédit-là. Je pense aussi que cette réglementation, elle cherchait à protéger les femmes afin que les hommes ne jouent pas au yo-yo avec. Peut-être. Un petit coup je te jette, un petit coup je te reprends, après je te rejette, je te reprends, selon mon bon plaisir. Enfin, je vois pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, je vois pas comment on peut justifier se servir de ce passage de Deutéronome 24 pour encourager le divorce. Ça n'a rien, ça ne parle pas de ça. En fait, ça ne parle pas de ça. Ce texte nous parle plutôt d'une procédure à suivre au cas où il y a déjà eu un divorce. Vous voyez ? Le divorce, là, moi, je ne vois pas que c'est encouragé du tout. Ni toléré, même, on pourrait dire. Mais enfin, bon, en cas où il y a eu un divorce, voilà. Mais, dans sa réponse, Jésus, il ne cherche pas à faire croire quand même que cette clause ne vient pas de Dieu. Il n'essaie pas de minimiser la chose. Mais en même temps, il ne dit pas que c'est une institution divine, le divorce. D'accord ? Ce n'est pas une institution divine. Dieu a donné cette clause à cause d'une faiblesse humaine, à cause de la dureté du cœur. Voilà. Mais il ne revient pas sur sa propre parole, parce qu'en fait, c'est sa propre parole à Jésus. Et puis, il ajoute, mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Au début, ce n'était pas comme ça. J'oserais même dire que la concession divine, elle est en désaccord avec l'institution divine. Ce que Jésus permet, ben en fait, ça va contre même sa propre loi. Mais il est bon. Puis Jésus ne s'arrête pas là, il leur fait comprendre aussi que eux, les pharisiens, ils considèrent le divorce un peu à la légère quand même. Alors, il appelle tout remariage adultère, sauf exception. Sauf exception. Ce que Jésus dit là sur la montagne, ça ne va pas sans ce que Jésus dit un peu plus tard dans Matthieu 19. On ne peut pas lire ce texte hors du contexte de tout ce que Jésus a dit. Alors je vous pose la question. Comment peut-on comprendre qu'un homme qui répudie sa femme l'expose à l'adultère, si Jésus n'est pas en train de parler de la clause de Deutéronome 24? Nulle part il dit qu'il parle de Deutéronome 24. Mais les religieux faisaient une loi, c'est pour ça que Jésus dit, vous avez entendu dire que, à cause de Deutéronome 24, mais comment voulez-vous qu'un homme puisse exposer sa femme à l'adultère? Si elle a déjà été couchée ailleurs, elle est déjà dans l'adultère. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas exposer sa propre femme à l'adultère si elle a déjà commis l'adultère. Eh oui. Alors, il faut comprendre une chose, je crois que c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont unis. Le premier conjoint, c'est l'union. C'est ça. Le premier. La seule exception que Jésus donne, c'est l'union illégale. Et puis alors, c'est là que commencent les soucis, parce que c'est là que personne n'est d'accord. Du temps de Jésus, il y avait Hillel, et puis il y avait Shammai, il y avait deux écoles, mais maintenant il y a presque autant d'écoles que de théologie. Ça devient la catastrophe. Tout le monde se contredit, tout le monde a des idées là-dessus. Même William Branham, il a lancé sa version, il a dit, lui, selon lui, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié ça, une femme chrétienne qui se coupe les cheveux, elle fait preuve d'infidélité envers son mari. Vous vous rappelez de ça? Et donc, il pouvait divorcer. C'est terrible. Parce que ça a quelque chose de sexuel vis-à-vis des anges et tout ça. Vous vous rappelez? C'était terrible. Dans Deutéronome 22:22, il n'est même pas question de divorce. Pour l'adultère, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui est surpris, c'est la peine de mort. Alors, les religieux voulaient, par exemple, lapider la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Vous avez laissé l'homme s'échapper, hein, s'occuper de condamner la femme. Mais l'homme, il avait laissé s'échapper. Pas gentil, hein. Mais ça, c'est comme ça. Le bonhomme. Mais il y avait et il y a toujours un autre courant de pensée. Puisque, écoutez bien, c'est un peu tordu, puisque c'est la peine de mort pour la femme adultère, ou pour l'homme adultère, le divorce s'est choisi comme une peine moins grave, moindre, on va dire. Parce que, en fait, on va dire, la femme adultère, selon la loi, elle est morte. Puisque normalement, elle devrait être lapidée. Donc, si elle est morte, l'homme peut se remarier. Vous voyez comment c'est tordu? Mais c'est dans les livres de théologie, ça, ce que je vous dis là. C'est pas moi, je l'invente pas, là. C'est tordu, mais c'est comme ça. Alors, Shammai et Hillel, eux, ils étaient d'accord là-dessus. Mais c'est encore aujourd'hui, il y a encore ce discours. Mais là où ils n'étaient pas d'accord, c'était sur ce que pouvait être l'infidélité dans le mariage. Là, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Par exemple, je pose la question, une femme qui fait rien à la maison, qui travaille mais qui veut pas partager son salaire avec son mari, une femme qui participe à rien dans le ménage mais qui profite de tout, une femme qui passe son temps chez papa maman, est-ce que ça suffit pour divorcer? Je ne vous demande pas la réponse, mais vous voyez, c'est aussi une infidélité, c'est une infidélité au serment. Et la même chose pour l'homme qui se marie et puis qui l'autre jour je regardais, vous savez, sur Dailymotion l'école des fans. Alors il y avait un enfant, Jacques Martin, lui dit, qu'est-ce qu'il fait comme travail ton papa? Il regarde la télé. Ah, il regarde la télé. Il dit, avec une bière ou sans bière? Avec une bière. Voilà le travail du papa. Mais supposons, voilà, un papa qui travaille comme ça, qui rapporte rien à la maison, qui laisse faire sa femme, qui ne prend qu'une... Eh bien, c'est aussi une infidélité à l'engagement, n'est-ce pas? Dans le mariage. Il y a aussi les religieux qui pensent que si l'homme s'aperçoit que la femme qu'il vient d'épouser n'est pas vierge, alors il a le droit de divorcer. Ça a cours encore de nos jours dans certaines dénominations. Alors ce qu'il faut voir, c'est le mot grec employé. Le mot grec employé dans Deutéronome 24, enfin ce n'était pas du grec à l'époque, mais ça a été, maintenant on retrouve ça et on sait que c'est le mot dans Matthieu 5, 31, et c'est le même mot qui est employé, c'est la même signification, la même idée. C'est porneias qui a donné pornographie maintenant, porno. Ça veut dire un acte sexuel illégitime. Mais alors c'est quoi un acte sexuel illégitime? Ben ça va de la débauche, prostitution, dévergondage, faux ménage. Vous savez ces gens qui se marient juste pour avoir les papiers, hein? Ouais, mariage blanc on appelle ça. Hein? Vous connaissez les enfants, vous savez que ça existe ça, hein? Ou alors des mariages consanguins, les mariages incestueux, donc tu te maries avec une femme, d'un coup tu t'aperçois que c'est ta sœur. Mais ça arrive, hein? De nos jours, ça arrive. Parce qu'il y a tellement de familles cassées que. Et vous connaissez la chanson, oh, quel scandale! Si papa savait ça, c'était Sacha Distel qui chantait ça. Vous vous rappelez de ça, hein? Ben, alors voilà, ça existe, des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont mariés, mais ils sont. Alors. Dans les deux premiers cas, donc prostitution et dévergondage, l'homme n'expose pas sa femme à l'adultère, puisqu'elle l'a déjà fait. Dans le troisième cas, faux mariage, donc union illégale, tout ça, possibilité de le renvoyer. Quatrième cas, incestueux, ben là, il faut que l'union soit dissolue. Mais c'est difficile de trancher personnellement. Alors, qu'est-ce que c'est l'enseignement de Jésus là-dessus? C'est quoi l'enseignement de Jésus? Eh bien, je vais encore paraphraser, si vous permettez, ce que je comprends de ce que Jésus est en train de leur dire. Il dit, vous avez entendu comment les docteurs de la loi font référence à Deutéronome 24. Hein, vous avez vu, je paraphrase là, parce que Jésus ne dit pas ça vraiment, mais il dit, vous avez entendu comment les docteurs de la loi font référence à Deutéronome 24 pour justifier une pratique permettant aux maris de répudier leurs femmes selon leur bon plaisir, sans autre encombre qu'un document en bonne et due forme attestant de l'événement. Hein, voilà, c'est ça qu'il leur dit. Mais il dit, mais moi je vous dis, qu'un comportement aussi irresponsable de la part d'un mari le conduira, lui, comme sa femme, et comme tous les nouveaux partenaires qui vont avoir des deux côtés, à des relations non plus conjugales, mais adultères. Voilà ce que j'ai dit. Mais il rajoute, ça c'est le principe général, mais il y a quand même une exception, c'est quand le mariage a déjà été rompu par un péché sexuel, là, il est possible de désobéir au septième commandement de la loi de Moïse. Là, c'est possible. C'est moi qui vous le dis. Pas moi, Michel Gendron, Jésus. Il dit, ça, c'est moi qui vous le dis. D'accord? C'est clair. Dans ce cas seulement, le conjoint innocent ne tombe pas sous le coup de l'adultère. Voilà. Mais bon, Jésus, il accorde cette permission, mais avec réticence, parce que c'est à cause de la dureté du cœur humain, il le précise bien. Jésus, il a toujours à la pensée le projet que Dieu avait dans son cœur au sujet de « il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il faut qu'il ait une femme ». Il avait donc un bon projet, quelque chose de bon pour construire, pour remplir la terre, pour faire des bonnes choses. Et toujours et partout, dans tout au long de son ministère, Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné un évangile de réconciliation. De réconciliation. Regardez, même Dieu traite Israël. Il dit que c'est son épouse, Israël. Et puis il répudie son épouse. Et puis après, eh ben, il veut la reconquérir, il veut la reprendre de nouveau. Vous trouvez ça dans Jérémie 2, 2, Jérémie 3, 1, Osée 2, 1 à 23. Lisez ça et vous allez voir quel est l'esprit de Dieu, un esprit de réconciliation. Alors, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi de juger comme le faisaient les pharisiens. Ce n'est pas à nous. Je crois que ce qui nous revient à nous, c'est de faire plutôt comme Jésus, accentuer sur l'aspect positif du mariage, de la réconciliation. Et puis, ce n'est pas seulement pour le mariage, mais dans toute union, je crois que ce qu'il faut faire, c'est faire preuve d'amour, faire preuve de pardon, il faut être des porteurs de paix. D'ailleurs, au fond, comment celui qui est comme... On voit juste avant dans son discours sur la montagne, miséricordieux, pacifique, pauvre en esprit, doux, humble de cœur. Comment est-ce qu'il peut répudier sa femme ou comment est-ce qu'elle peut répudier son mari? En étant doux, miséricordieux et toutes ces choses qu'on trouve dans les béatitudes. C'est un non-sens. Je pense que ce que Jésus voulait dire à ces religieux, c'est que nous aussi, nous devons refuser de parler de divorce avant d'avoir parlé de la valeur du mariage et de la possibilité de la réconciliation. Voilà. Maintenant, Jésus parlait donc à une époque où c'était les machos, tout le temps les hommes. De nos jours, tout ce qui vient d'être dit, eh bien, ça peut être dit aussi dans d'autres sens, c'est-à-dire que les femmes, elles ont aussi le droit, si leur mari va à gauche, à droite, de les virer. C'est la seule raison. Parce que dans le Saint-Esprit, Jésus nous dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, ce que les pharisiens avaient tourné en leur faveur en disant « la loi, elle dit ça », eh bien, messieurs, maintenant c'est fini. Les femmes, elles ont aussi le droit de s'approprier ces lois-là. Leur mari doit être fidèle. Amen. Alors, voilà. Maintenant, c'est difficile. C'est jamais facile. On ne peut pas juger facilement ces choses-là. Mais ce que je dois vous enseigner, c'est ce que Jésus dit. Et on ne trouve que cela au sujet du divorce, enfin, à mon avis. Maintenant, je peux encore trouver d'autres choses, mais ça fait quand même 42 ans que je lis la Bible. Et je trouve ça. Il y a d'autres détails, il y a des histoires qui racontent. Mais en gros, c'est toujours ça qui revient, sauf en cas d'infidélité. Et bon, voilà. Mais même en cas d'infidélité, Dieu, quand son peuple est infidèle, quand son épouse Israël est infidèle, il la renvoie sur le coup, après il la reprend, alors qu'il dit que c'est pas bien. pour nous de le faire. Vous voyez, donc il faut, on ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et, mais il ne faut pas non plus que, comme les pharisiens de l'époque, on rende le divorce facile, léger, simple, pas trop compliqué. Voilà, sur, pour n'importe quel prétexte, on divorce. Ben non, incompatibilité d'humeur, on ne s'entend plus. Ben, plaf, enfin. Non, c'est, ça ne se fait pas. Quand, ça ne se fait pas quand on s'est unis devant Dieu, on a prié ensemble, on a prié, il y avait des témoins, tout ça, c'est très important. Et le mariage, c'est quelque chose de très important. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai répondu à quelques-unes des questions qui peuvent se poser quand on lit ce texte. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire sur Révélation Bible. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je pourrais vous citer des bouquins à lire aussi à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de ce que tu nous as permis d'approfondir ces quelques paroles dans la paix, de nous permettre de voir que tu nous demandes d'être toujours ceux qui apportent la paix, ceux qui sont doux, ceux qui sont humbles, ceux qui cherchent toujours la réconciliation. Mais tu nous dis aussi qu'à cause de la dureté du cœur, cela est parfois impossible et nous humilions devant toi, sachant que même dans ton peuple en ce moment, on voit les grands serviteurs de Dieu qui divorcent et cela nous fait de la peine. Et nous voulons, Seigneur Jésus, nous humilier pour cela devant toi et te prier d'être compatissant vers ton peuple et de lui donner encore quelques lumières afin que nous puissions vivre encore un temps de paix où nous pouvons apporter ta parole. Merci Jésus. Amen. Amen.